Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, le taux de chômage au plus bas depuis 10 ans, éclairci, réel, embelli, durable. Comment interpréter ces chiffres donnés ce matin par le Bureau international du travail? Notre invité est l'économiste Éric Heyer. Le Premier ministre se réjouit évidemment de ces chiffres, nous l'entendrons. Et à 10 jours des européennes, il acte clairement un recul déjà annoncé par le président. Assouplissement des 80 km/h, les présidents de départements prennent la main. Combien de victimes présumées du docteur Péchier, l'anesthésiste de Besançon? Il est au palais de justice et continue de clamer son innocence. Mis en examen pour 7 empoisonnements, les enquêteurs ont exhumé des dizaines d'autres dossiers. Halte au tourisme de masse, après Venise et le Mont Blanc, des mesures de restriction sur le Machu Picchu. Nous irons au Pérou. Un mois après l'incendie de Notre-Dame, hier nous faisions le point sur les travaux. Autre sujet aujourd'hui, les dons. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Où en est-on?
Où est passé le fameux milliards d'euros de dons? On a sorti la calculette et devinez quoi? On n'y est pas encore.
A tout à l'heure pour les détails, alors vous faites vivre le suspense. Dans ce journal encore, le débat des européennes à Bruxelles. Les chefs de file des différents courants face à face hier et à la télévision dans les 28 pays. Sujet le plus débattu, le climat. Pour la gauche radicale, le belge Nico Coué.
On ne s'attaque pas aux gros pollueurs. Ces multinationales qui sont responsables de presque 70% de la pollution mondiale, on ne leur fait absolument rien.
À propos d'Europe, nous irons en Finlande. Le modèle finlandais d'éducation perd quelques plumes. Ce sera la chronique européenne de Delphine Simon. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que nous dit Météo France en ce jeudi?
Eh bien, c'est un jeudi largement ensoleillé, mais ça va pas durer puisqu'on attend un temps plus perturbé et pluvieux demain, notamment sur la moitié sud. Cette dégradation donnera d'ailleurs un ciel de plus en plus voilé cet après-midi sur les régions de l'ouest. Et puis la pluie fera même son retour sur le sud de l'Aquitaine dès ce soir vers 22 ou 23 heures. Côté température, prévoyez 15 à 23 degrés cet après-midi, mais jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest.
22 ou 23 heures, on sera au rendez-vous. Notre passage quotidien par Cannes, déjà deux beaux films en course pour la Palme d'Or. Triomphe pour le film français Les Misérables hier. Eva Bétan a aussi aimé le film brésilien présenté, Bacurau de Kleber Mendoza. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Des générations de présidents, de chefs de gouvernement, de ministres de l'économie se sont cassés les dents sur ces chiffres. Les chiffres du chômage au plus bas depuis 10 ans, selon le Bureau international du travail, 8,7%. Commentaire d'Edouard Philippe.
C'est le meilleur résultat qu'on ait depuis 10 ans. C'est une baisse continue du chômage depuis 2 ans. Du chômage taux général, du chômage des jeunes, qui lui, en 2 ans, a singulièrement baissé. Je m'en réjouis.
Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Alors ça claque, hein, le chiffre du chômage au plus bas depuis 10 ans. On tourne une page dans l'histoire sociale, c'est une embellie durable, on relativise. Comment vous accueillez ces chiffres?
Non, mais attention, il y a 10 ans, on était en pleine crise économique. 2009, c'est la crise économique. Mmh. Donc non, c'est pas la bonne référence, bien entendu. Il faudrait dire au moins 11 ans et demi, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir au taux de chômage qui prévalait avant la crise. Au premier trimestre 2008, il y avait 6,8% de chômage France Métro, 7,2%, donc on est encore loin de ce 7,2%.
On n'a pas effacé la crise?
Non, on n'a pas encore effacé la crise. Vous voyez, on est à peu près 1,5 point de taux de chômage au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc non, il ne faut pas crier victoire. Il est normal qu'on soit... Enfin, il y a une baisse du chômage, oui. C'est indéniable, mais il y a 10 ans, on était en pleine crise économique. Bon, c'est une petite performance économique.
Est-ce que c'est durable?
Alors oui, durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des taux de croissance aux alentours de 1,4, 1,5. Avec 1,4, 1,5, on crée suffisamment d'emplois pour faire baisser le chômage. Vous voyez, le taux de croissance qui permet de stabiliser le chômage, c'est 1,2. Donc vous voyez, on est juste au-dessus. Donc c'est pour ça que le chômage baisse tout doucement. Alors, est-ce qu'on va continuer à être toujours au-dessus de 1,2 pendant suffisamment d'années? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il ne va pas y avoir demain un prochain grand ralentissement mondial qui va faire que globalement, on va repasser en dessous et que le chômage va recommencer à augmenter? Mais vous voyez, aujourd'hui, avec 1,4, c'est la prévision du gouvernement pendant jusqu'à la fin du quinquennat. Bah, avec 1,4, vous faites baisser le chômage de 0,2 points chaque année. Alors, bravo, c'est bien. Il vaut mieux que ça soit en baisse qu'en hausse. Mais vous voyez, avec 0,2, c'est pas comme ça qu'on atteint le plein emploi.
Qu'est-ce qui est attribuable au gouvernement ?
Alors, pour l'instant, assez peu de choses, hein, parce que vous voyez, la principale réforme menée par ce gouvernement, c'est pas le CICE, le pacte de responsabilité qui était du gouvernement précédent, c'est plutôt la réforme sur le marché du travail, les ordonnances Pénicaud, et ça, on sait que ce type de réforme met à peu près 2 ans, 3 ans avant d'imprégner l'économie, donc c'est pas lié à cela. On peut dire que la croissance économique est un peu plus faible depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, alors parce qu'il y a un ralentissement mondial, premièrement, donc ça c'est pas la faute de ce gouvernement, mais il y a tout de même eu un calendrier fiscal qui a pas joué en faveur de l'économie française et qui a même poussé un peu aux gilets jaunes, et donc la crise sociale a pas aidé à avoir une bonne performance économique. Et donc globalement, aujourd'hui, la baisse du chômage ne peut pas être attribuée à ce gouvernement, c'est plutôt les réformes passées, le pacte de stabilité qui permet justement de d'y arriver et pas le gouvernement. Donc aujourd'hui, c'est encore à venir plutôt l'impact des réformes.
Baisse du chômage des jeunes, Édouard Philippe insiste là-dessus, il a raison dans le sens où c'est aussi dû à l'action du gouvernement depuis deux ans, c'est durable là aussi.
Alors il y a deux points, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, le gouvernement a supprimé les emplois aidés. Quand vous supprimez les emplois aidés, ça aide pas normalement le chômage des jeunes, parce que c'est plutôt des jeunes qui bénéficient de ce genre de dispositif, mais il a remplacé par le PIC, le plan d'investissement en compétences, c'est-à-dire c'est des stages. Alors effectivement, quand vous mettez des jeunes en stage, vous
les sortez des chiffres
du chiffre du chômage. Est-ce que ça veut dire pour autant que lorsqu'ils vont revenir, ils vont avoir un emploi? Ça, c'est une grande interrogation. On espère, bien entendu. Mais il n'est pas évident qu'après 6 mois de formation, vous ayez à coup sûr un emploi.
On est à 8,7 et on s'en réjouit en France. On a des pays comparables qui sont à 4, à 5, à des taux beaucoup plus bas. Ouais. Comment on explique cet écart? Est-ce que c'est parce que la qualité des emplois est beaucoup moins bonne ailleurs?
Il y a ça aussi. Alors, pour être complètement complet, il y a aussi des pays très proches de nous, comme l'Italie, l'Espagne, qui sont à 15% ou à 11% de chômage. Donc il y a vraiment nord contre sud en Europe. Et donc effectivement, l'Allemagne, c'est quand même l'élève modèle de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, avec 3,6% de chômage, c'est parfait. Mais effectivement, la qualité de l'emploi n'est pas forcément au rendez-vous, puisque on voit que le taux de pauvreté au travail est supérieur au taux de pauvreté au travail en France. Donc effectivement, c'est les emplois avec une durée du travail plus faible, avec un salaire horaire plus faible. Donc certes, vous êtes dans l'emploi. Maintenant, ce qu'il faut voir, et le Bureau international du travaille là-dessus sur cette idée, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit boulot et du coup ça vous permet de faire une sorte de passerelle pour avoir un emploi de bonne qualité dans l'avenir. Là pour l'instant les résultats ne sont pas, on peut pas en conclure que pour l'instant ça fonctionne, mais attention, ça peut pouvoir prendre du temps et donc il faut attendre, mais peut-être qu'effectivement on peut peut-être s'inspirer de ce type de pays qui finalement essayent de trouver un emploi coûte que coûte, même si les emplois sont de moins bonne qualité. Mais ça veut dire qu'il faut un modèle social derrière pour essayer de pas plonger ces travailleurs dans de la pauvreté.
Quand on parle de plein emploi, on parle en France de quoi? De 4-5% à peu près. Et est-ce que c'est atteignable en 2025? C'est l'objectif qu'a fixé Emmanuel Macron récemment. Si je reprends ce que vous disiez au début de cet entretien, ça va être dur.
Oui, alors effectivement, le plein emploi, on peut dire que lorsqu'on sera à 4,5-5% de chômage, on pourra considérer qu'on est au plein emploi, même si on peut descendre légèrement en dessous. Oui. Il y a des pays qui sont légèrement en dessous. Vous voyez, ce rythme-là, ça veut dire qu'on aura de la croissance économique de façon un peu plus conséquente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec des 1,4 de croissance économique, compte tenu de la structure de l'économie française, c'est-à-dire que la singularité française par rapport aux Allemands, admettons, c'est qu'on a une population active dynamique. On fait plus d'enfants en France qu'en Allemagne, et donc il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc ça, c'est bon pour la croissance de demain, mais en revanche, ça rend plus difficile la baisse du chômage. Et aujourd'hui, vous voyez, vous avez 100 000 nouveaux entrants nets sur le marché du travail, alors qu'en Allemagne, il y a 100 000 en moins chaque année. Donc globalement, chez nous, il faut créer 100 000 emplois pour stabiliser le chômage. Ben, chez eux, même avec des destructions d'emplois, le chômage baisse.
Merci Eric Heyer d'être venu dans le studio de France Inter. À propos d'emplois, combien menacés dans la filière sucrière en France? Le sucre, cette filière, dans le monde entier, traverse une crise. Les cours sont très bas, on produit trop de sucre. Dernier épisode en date, le numéro 1 mondial du sucre, le groupe allemand Südzucker, veut fermer 2 de ses 4 usines en France, à Cagny dans le Calvados, Epeville dans la Somme. Ça fait 130 postes supprimés, plus un gros manque à gagner évidemment pour les agriculteurs du coin qui produisent des betteraves, qui fournissent la matière première. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Manuel Ruffez, il propose de reprendre les usines. Discussion ouverte avec le groupe allemand.
Eh ben oui, ouverte, alors qu'on a bien cru cette nuit à une fin de non-recevoir du groupe allemand. Que s'est-il passé? C'est un communiqué de presse, mais pas du groupe des producteurs allemands de betteraves, ce qui est bien différent. Certes, ils sont actionnaires, certes, leur avis compte, mais c'est avec le groupe Südzucker que négocient en ce moment, et notamment à l'occasion d'une réunion de 3 heures hier, les planteurs français. Patrick Deschauffour de la CGB du Calvados.
Le communiqué de presse qui est arrivé cette nuit a servi un peu de douche froide à tout le monde en se demandant, mais qu'est-ce qui s'est passé, puisque hier tout le monde s'est quitté sur une note de gens responsables qui veulent sortir par le haut de la crise que traversent les producteurs de betteraves français, mais aussi Sulzbacher, et de dire on va travailler en bonne intelligence, et avec ce communiqué qui dit circuler, il n'y a rien à voir.
Donc au contraire, les Français l'affirment, on les a fait réfléchir. Frank Sanders, c'est le président des betteraviers français.
Nous, hier, après 3 heures effectivement de discussion, on nous a dit de déposer une offre de reprise au groupe et que le groupe reviendrait vers nous au bout de 3 semaines. Donc c'est bien la preuve qu'ils allaient l'étudier. Oui, pour l'instant, la porte n'est pas entièrement fermée, mais ne soyons pas naïfs, c'est un dossier qui est très compliqué et qui n'est pas gagné.
Et sur la table, les Français mettent 30 millions d'euros pour la reprise des 2 usines. Ils affirment que ce serait tout bénéfice pour Sulzbacher, qui économiserait aussi les 70 millions d'euros nécessaires à la fermeture des 2 sucreries.
Merci Manuel Ruffez. L'actualité économique, c'est encore si vous faites votre déclaration sur papier, que vous avez une dérogation, puisqu'en principe c'est fini. Vous avez jusqu'à ce soir sur Internet, la première date limite pour les départements, c'est de 1 à 19 déclarations de revenus, vous l'aurez bien compris. Donc ce soir pour le papier et les départements 1 à 19 sur Internet, mardi pour votre déclaration. L'affaire sort du commun. Jusqu'à quel point? On en saura plus ce soir sur les charges précises qui pèsent sur le docteur Frédéric Péchier, cet anesthésiste soupçonné d'empoisonnement à Besançon. Combien de victimes présumées seront retenues? Combien de décès? Les parents d'un enfant de 4 ans qui a survécu à 2 arrêts cardiaques ont porté plainte. Le médecin est déjà mis en examen pour 7 cas. C'était il y a 2 ans, mais les enquêteurs ont continué de travailler et d'exhumer des dossiers. Bonjour Sarah Tuchereur.
Bonjour Bruno.
Sarah, après 48 heures de garde à vue, le médecin était ce matin au palais de justice de Besançon dans le bureau du procureur.
Il est arrivé au tribunal en tout début de matinée après 48 heures de garde à vue au commissariat de la ville. On l'a aperçu à bord d'une voiture banalisée. Il a tenté de cacher son visage de la curiosité des nombreux journalistes présents. Ces 2 jours d'interrogatoire par la police judiciaire l'ont usé, selon son avocat Randall Schwerdorfer.
Il est fatigué, hein. 48 heures, très fatigant. Parce qu'il a participé et collaboré à tous les interrogatoires au mieux de ses possibilités. En tout cas, sur le fait que la position du docteur Péchier n'ait pas changé, elle n'a jamais changé, elle n'a pas changé avec cette garde à vue. Docteur Péchier conteste tout fait d'empoisonnement de quelque nature que ce soit.
Cette ligne de défense, le médecin bisontin la maintient depuis 2017, depuis sa première mise en examen pour 7 empoisonnements, dont 2 mortels. Cette fois, l'ampleur des faits reprochés à l'anesthésiste est différente. On parle de dizaines de cas suspects, dont un enfant de 4 ans, vous le rappeliez, qui a fait 2 arrêts cardiaques lors d'une banale ablation des amygdales. Ses parents ont porté plainte contre le docteur Péchier. Le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, a annoncé qu'il en dirait plus lors d'une conférence de presse à 17h30.
Sarah Tuchereur en direct de Besançon avec Clémence Bonfils. La thèse évoquée par les enquêteurs à ce stade, on verra si elle est confirmée, c'est celle d'un pompier pyromane au fond. Un médecin qui modifiait les produits injectés aux malades pour arriver in extremis en sauveur. Eh bien en Allemagne, c'est le profil d'un infirmier jugé depuis de longs mois. Et c'est le jour du réquisitoire aujourd'hui. Nils Hügel est jugé pour une centaines de meurtres. À propos de violences et de crimes, un chiffre ne baisse pas en France, malgré les mesures prises et les promesses que cela va changer. C'est le chiffre des violences conjugales. Une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex tous les 2 à 3 jours. Ces dernières années, des mesures ont été prises. Éloignement du conjoint, téléphone grave danger, saisie d'un juge sans même attendre la demande de la victime. Eh bien, ces mesures sont inégalement appliquées. Alors Corinne Audouin, la ministre de la Justice, rappelle aux magistrats le caractère prioritaire de ces mesures.
Le message de la circulaire envoyée à tous les procureurs est clair. Il faut instaurer une véritable culture de la protection des victimes de violences conjugales. Problème numéro 1, seulement 1 femme sur 5 victimes de violences conjugales porte plainte. La chancellerie demande qu'on améliore l'accueil des victimes. Rappelle qu'en 2020, il sera possible de déposer plainte en ligne. Les services d'enquête doivent systématiquement établir des mains courantes. Deuxième enjeu majeur, protéger les victimes. La ministre demande au parquet de mettre en place des structures adaptées pour héberger les conjoints violents, car c'est eux qu'il faut éloigner. Toujours pour empêcher les drames, il faut mieux utiliser les téléphones grave danger. Ces appareils qui, avec une seule touche, permettent de prévenir les secours. Selon le ministère, les 800 téléphones disponibles ne sont pas tous attribués. Enfin, une expérimentation va être lancée, celle du dispositif électronique anti-rapprochement. C'est un bracelet électronique qui géolocalise le porteur et déclenche une alarme s'il approche un périmètre interdit. Le tribunal de Pontoise devrait tester le dispositif.
Voilà pour ces précisions de Corinne Audouin. Comme promis, Mathilde Dehimi nous a rejoint. Nous sommes un mois et un jour après l'incendie de Notre-Dame. Hier, pour le premier mois, nous faisions le point avec Rémi Brancato sur les travaux dans la cathédrale et autour de la cathédrale. Avec vous, Mathilde, la question des dons. On se souvient de ce chiffre. Dès le lendemain, on disait, on approche du milliard de promesses de dons. On est loin de la coupe aux lèvres. Hein.
Oui, on en est vraiment loin pour l'instant. En tous, les quatre organismes reconnus par l'État ont déjà touché presque 71 millions d'euros, 48 pour la Fondation du Patrimoine, 13,5 pour la Fondation Notre-Dame, 6 millions dit la Fondation de France et 3,4 pour le Centre des Monuments Nationaux. Il reste aussi beaucoup de chèques à encaisser car c'est plus long à traiter et les dons en crypto-monnaie, Bruno, sont pour l'instant confidentiels. Ça, c'est la colonne des dons effectivement reçus, notamment des particuliers, à mettre en perspective avec la colonne des promesses de dons. 491 millions d'euros devraient ainsi être versés et il n'y a pas lieu de s'inquiéter, dit la Fondation du Patrimoine. Ce sont surtout des dons de mécènes ou d'entreprises qui ne peuvent pas décaisser de l'argent comme ça, mais qui se sont bel et bien engagés à donner pour Notre-Dame. Un autre chiffre hors norme, Bruno, celui du nombre total de donateurs, plus de 350 000 si les dons sont effectivement tous honorés, avec une proportion jamais égalée de donateurs étrangers. 7 000 Américains, par exemple, relèvent la Fondation Notre-Dame. Des donateurs parfois très exigeants. Certains précisent, par exemple, qu'ils ne donnent que si la cathédrale est reconstruite à l'identique. Il faudra donc les rappeler une fois le projet connu pour voir s'ils maintiennent ou non leurs dons, à condition qu'ils n'aient pas déjà bénéficié de la déduction fiscale.
Construire à l'identique ou pas. Je vous rappelle cet éclairage proposé sur franceinter.fr. La question a été posée aux différents candidats à la mairie de Paris. Manon Aubry pour la France Insoumise et Marine Le Pen pour le Rassemblement National étaient ce matin les invités de France Inter à 10 jours des européennes. La campagne sur votre radio. France Insoumise et Rassemblement National. Eh bien, un homme vient de passer d'un camp à l'autre. Et cela retient l'attention à l'approche du scrutin. Andrea Cotarac, élu régional, la France Insoumise en Rhône-Alpes, ancien membre de l'équipe de campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Aux européennes, il votera pour la liste d'extrême droite pour faire barrage, dit-il, à Emmanuel Macron. Maxence Lambrecq, vous avez des détails sur les coulisses de ce transfert. Il intervient maintenant, mais il était prévu de longue date.
La rupture date du mois de novembre, en réalité, quand Jean-Luc Mélenchon écarte discrètement deux de ses cadres, François Koch et Jorge Kuzmanovic, considérés comme des souverainistes de gauche, des héritiers de chevènement, préoccupés par les questions d'immigration et qui se sont sentis de plus en plus isolés, exactement comme Andrea Cotarac au sein de son groupe au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'est alors tourné vers un ancien camarade de fac à Lyon 3, un certain Antoine Méliès, élu du Rassemblement National, et c'est lui qui a ensuite fait le lien avec la patronne.
J'ai rencontré récemment, j'ai déjeuné avec lui il y a quelques semaines, et effectivement, il était en pleine réflexion.
Et après ce déjeuner, Andrea Cotarac a participé au forum de Yalta, mi-avril. Et devinez qui il a retrouvé en Crimée ? Thierry Mariani et Marion Maréchal. Ils ont fait connaissance tous les trois autour de la buvette. L'alliance était scellée. Il l'annonce dans la dernière ligne droite, logique, pour tenter de créer une dynamique, insister sur le vote utile. Et il le fera d'ailleurs ce soir sur scène aux côtés de Marine Le Pen dans un meeting à Fessenheim. Les Insoumis, eux, assurent qu'il a été à la soupe, qu'on lui a déjà promis un poste au RN après les européennes.
Et est-ce que les résultats de l'élection dans 10 jours auront une influence sur la politique du gouvernement ? Réponse d'Edouard Philippe, invité ce matin de nos confrères de France Info.
Je ne doute pas qu'on fera une lecture nationale du scrutin. Je n'en doute pas. Je le regrette un peu, je vous le cache pas. Mais enfin, c'est comme ça. Ça se passera comme ça. Est-ce que ça change totalement les engagements qui ont été pris par le président de la République au moment de sa campagne présidentielle, puis repris après le grand débat ? Est-ce que ça change la détermination de la majorité ? Est-ce que ça change la logique d'ensemble de l'action gouvernementale ? La réponse est non.
Édouard Philippe qui assume donc l'assouplissement de la mesure qu'il a longtemps portée, les 80 km/h sur le réseau secondaire. La règle de principe demeurerait au niveau national, 80 km/h. Mais les présidents de conseils départementaux auraient le pouvoir de relever la vitesse maximale sur certains tronçons. Et à 10 jours des européennes, un aperçu du débat en Europe. 6 représentants des principaux courants politiques au Parlement européen débattaient hier à Bruxelles. Débat retransmis à la télévision dans les 28 pays. Vous avez suivi cela, Angélique Boin. Le sujet le plus brûlant, c'est le climat.
Protéger la planète a un coût, certains emplois pourraient disparaître, l'énergie coûtera plus cher. Pensez-vous qu'il faille faire ce type de sacrifice? C'est sur cette question posée aux candidats que les débats ont été particulièrement vifs hier soir avec cette première attaque de l'Allemande Ska Keller, tête de liste des Verts européens.
Ce qui est bien, c'est que nous savons quoi faire. Les instruments politiques, les mesures à adopter, nous connaissons tout cela. Tout cela est prêt, il faut juste agir.
Et les partis ici présents, accusent-elles, ne votent pas au Parlement nos propositions. Le Belge Nico Cué, candidat de la gauche radicale, embraye en évoquant alors la crise des Gilets jaunes, une crise dont l'écho a largement franchi les frontières.
On ne s'attaque pas aux gros pollueurs. Ces multinationales qui sont responsables de presque 70% de la pollution mondiale, on ne leur fait absolument rien. Par contre, je suis totalement opposé qu'on déplace le problème vers la taxation des citoyens les plus faibles, comme le fait Macron en France. C'est totalement inacceptable.
Pour l'Allemand Manfred Weber, chef de file de la droite européenne, il faut en effet une transition climatique, mais pas trop brutale en termes d'emploi.
Je n'accepte pas que les perdants soient les retraités, les pauvres de nos sociétés, les salariés de l'industrie, notamment dans l'automobile. Comment ils vont pouvoir gérer cette période de transition m'inquiète.
Manfred Weber, dont la famille politique, le PPE, est en tête des sondages, il pourrait bien décrocher la présidence de la Commission européenne.
À propos d'Europe, c'est l'heure de la chronique de Delphine Simon. Delphine, vous êtes à Helsinki. Qui cette semaine, Helsinki, Finlande, pays réputé pour son éducation très performante. Le pays est toujours, Delphine, dans le top 5 des pays de l'OCDE.
Et le modèle finlandais n'est plus aussi performant. Premier de la classe en l'an 2000, les jeunes finlandais font encore partie du top 10 mondial, mais leurs résultats décrochent dans la dernière étude PISA. Moins 11 points en sciences, moins 5 en lecture, moins 10 en maths. Les experts du monde entier venaient à Helsinki chercher la recette miracle de ce système éducatif ultra performant. Désormais, les éducateurs finlandais sont inquiets. Le pays s'est lancé dans une vaste réforme en 2016. Ceci dit, Bruno, la Finlande a toujours de bons résultats, meilleurs que la France, qui se classe 26e parmi les pays de l'OCDE.
Alors, on retient tout de même cette dégradation hein, en Finlande. On y revient dans une seconde. D'abord, rappelons les bons résultats de la Finlande, les bons éléments de ce système éducatif.
Ça tient en un mot, la bienveillance. Tout est fait pour que l'élève trouve sa place. Ça commence dès la maternelle. Un enseignant encadre 10 enfants en Finlande. En France, la moyenne est de 23 élèves par classe. En Finlande, les élèves ne sont pas notés jusqu'à la fin de l'école primaire. Les redoublements sont rares. Les professeurs s'adaptent aux élèves en difficulté et ils y mettent les moyens. L'éducation est gratuite jusqu'à la fin de l'université.
Alors les bémols, on y vient. Qu'est-ce qui est désormais critiqué en Finlande ?
Parmi les critiques, selon certains experts de l'OCDE, le lycée modulaire où les élèves choisissent leurs options. La Finlande est d'ailleurs l'un des pays sur lequel la France a pris exemple pour la réforme de son baccalauréat. Or, en Finlande, tous les lycées ne proposent pas l'ensemble des options. Les choix sont plus ou moins intéressants selon les établissements, ce qui renforce les inégalités. Autre problème, le harcèlement à l'école. Cela pèse sur les résultats scolaires, tout comme les gros écarts de réussite entre garçons et filles à 15 ans au bénéfice de ces dernières.
Dernière question Delphine, puisque le système d'éducation reste tout de même bon, est-ce que les Finlandais sont mieux préparés que d'autres petits Européens à la révolution technologique ?
Oui, car être bon dans une discipline ne suffira plus pour trouver des solutions. Alors ici, on valorise plus les compétences en lien direct avec la vie active. L'université mise sur la pluridisciplinarité. L'idée, c'est d'abolir les barrières entre les matières. Le père du design finlandais, Alvar Aalto, a donné son nom en 2010 à une université où chaque étudiant pioche dans 6 disciplines, du design au génie électrique en passant par la chimie, les sciences, l'économie. Ici, la formation tout au long de la vie est un must. 65% des adultes sont en formation contre 35% en France. Ces possibilités de développement tout au long de la vie, c'est l'une des raisons pour laquelle le chômage de longue durée est très faible en Finlande. Une des raisons aussi pour lesquelles les Finlandais sont les citoyens les plus heureux au monde, du moins si on en croit le dernier rapport mondial du bonheur, Bruno.
Delphine Simon, chronique enregistrée hier et à réécouter sur franceinter.fr. Parmi les déclarations du matin, celle-ci très verte d'Emmanuel Macron pour les États-Unis. Le modèle économique américain est complètement conduit, piloté par des grands acteurs privés et donc en quelque sorte il n'est plus sous contrôle démocratique, dit le président français. Déclaration fort peu diplomatique lors du salon technologique Vivatech à Paris. Le président français plaide pour un renforcement des règles sur la concentration pour éviter l'absorption d'entreprises du numérique par des Américains. Le tourisme de masse abîme les joyaux qui l'attirent. Des mesures de restriction sont prises au fil des mois sur les grands sites internationaux. Dernier exemple en date, Eric Sanson, le Machu Picchu au Pérou depuis hier. L'accès au site Inca est limité.
Ils sont en moyenne 4000 à se bousculer tous les jours sur les chemins de la vieille montagne, le Machu Picchu en Quechua. Et 4000 touristes, ça use même énormément les pierres de l'ancienne place forte de l'Inca Pachacutec. Depuis le 15 mai au matin, le gouvernement péruvien limite à 3 heures quotidiennes l'accès à trois parties emblématiques de Machu Picchu, les temples du soleil du Condor et la pyramide de l'Intihuatana. Préparant un voyage à Cusco, l'indigène équatorienne Katiknina Titoania est partagée.
C'est contradictoire parce qu'en fait je suis d'accord. Parce que c'est un site naturel et ancestral, je crois que Machu Picchu doit être protégé et qu'il faut apprécier sa valeur. Trop de touristes, ce n'est pas bon pour un site emblématique comme celui-là. Et si on me donne une bonne raison, je crois que je comprendrai. Mais quelque part, aller à Cusco sans visiter Machu Picchu fait perdre de son charme au voyage.
L'expérience pilote prendra fin le 28 mai. Si les résultats sont probants, le gouvernement péruvien adoptera des mesures définitives le 1er juin prochain pour protéger son joyau touristique. Quito Éric Sanson, France Inter.
Allez, de la montagne à la mer, nous allons à Cannes. Hier soir, les applaudissements du Théâtre Lumière pour le premier film français Les Misérables, également en compétition pour la Palme d'Or. Vous entendez un extrait de la bande-annonce sous ma voix, Bacaraou. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Bacaraou du Brésilien Kleber Mendoza. C'est une réussite, dites-vous.
Oui, c'est à la fois un western et un film de science-fiction. C'est un film qui nous parle d'un village, comme on rêverait qu'il en existe, celui où on célèbre comme il se doit, une matriarche de 94 ans qui vient de mourir, celui où l'on revient après avoir pris l'air ailleurs, celui où il existe, mais je dirais naturellement, une sorte de démocratie directe, on prend les décisions ensemble. Il y a aussi de la critique sociale dans ce film. On peut voir aussi une parabole sur les rapports nord-sud, et encore plus prosaïquement, notre dépendance à la Wi-Fi, parce que le jour où il n'y a plus de Wi-Fi, c'est que la fin du monde est proche. L'argument est intriguant. On est là dans ce village et voilà que quand les habitants, ils sont là, ils sont chez eux. Quand ils regardent sur la carte, le village n'existe plus sur les cartes. Voilà, c'est le début d'un mystère. Il y a à la fois du réalisme et des choses totalement irréalistes. Il y a à la fois de la poésie et de la critique. Il y a une idée de la résistance mais qui passe en sous-main. Il y a un élément conjoncturel qui est important. C'est un film brésilien qui est montré ici à Cannes en sélection officielle avec tous les honneurs. Alors qu'au Brésil, le président d'extrême droite fait tout pour couper les crédits à la culture. Et le fait que le film soit à Cannes, ça doit quand même pas mal l'embarrasser. Écoutez le réalisateur.
It kind of denies the given reality.
Cela apporte un démenti à ce qu'ils veulent faire croire.
Ils
disent qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour faire de la merde. D'une certaine manière, ça leur pose problème que ces films soient mis en lumière à Cannes.
Voilà, si certains, mais je pense que personne ne se pose la question, si certains se disaient à quoi ça sert de montrer des films du monde entier, eh bien vous avez la réponse.
Merci Eva Bétan. Ce soir en sélection officielle, une réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop et Ken Loach.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Un soleil généreux domine cet après-midi entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'aux Gard, à la Côte d'Azur et à la Corse. Plus à l'ouest, un voile nuageux, parfois assez épais, vient atténuer le bleu du ciel. En Bretagne et sur les Pays de la Loire, le ciel devient même laiteux. Ce sont les prémices de l'arrivée d'une dégradation qui nous concernera demain, mais qui va déjà donner les premières pluies au sud de la Garonne dès cette nuit, notamment sur le Pays Basque. Sur un large quart nord-est, on profite de belles éclaircies cet après-midi, malgré quelques bourgeonnements nuageux. Entre les Ardennes et le Bas-Rhin, les nuages ont tendance à s'étaler et à prendre plus de place. Côté température, l'ambiance est parfois assez douce avec des maximales comprises entre 15 et 23 degrés en général. Et dans le sud-ouest, on montera même jusqu'à 25 degrés. À noter aussi une légère bise entre les côtes de la Manche, la Touraine et la Vendée.